Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Les historiens de l'art disent de Rodin qu'il est le plus moderne des anciens et le plus ancien des modernes. Son œuvre, qui ne se limite pas aux penseurs, est un tournant dans l'histoire de l'art. Derrière le sculpteur scandaleux et l'artiste mondain, un homme nourri par la connaissance de la culture classique, le regard sur l'Antiquité, la Grèce, Rome et enfin l'Égypte dans les dernières années de sa vie. Sa fabuleuse collection personnelle est en partie exposée aujourd'hui à l'hôtel Biron, comme l'artiste l'a voulu, au milieu de ses propres œuvres. C'est l'histoire passionnante et pleine de rebondissements de ce sculpteur que je vais vous raconter aujourd'hui dans un double épisode réalisé en partenariat avec le musée Rodin. Rodin, sculpteur d'âme. Épisode 1. Croire en son étoile. Nous sommes dans l'atelier d'Auguste Rodin, rue de l'Université à Paris en 1897. Le sculpteur vient de terminer son Balzac. Cette statue en plâtre représente l'écrivain de la Comédie humaine et lui a été commandée 6 ans plus tôt par Émile Zola, alors président de la Société des gens de lettres, une société savante qui défend les intérêts des auteurs. La tête de Balzac, animée par le mouvement des mèches de cheveux, émerge d'un corps enveloppé dans sa robe de chambre. Rodin a voulu montrer cet écrivain acharné se levant la nuit pour aller fixer une idée sur sa table de travail. Il a voulu représenter le génie dans sa forme la plus pure, sans les fioritures de la plume et de l'encrier. Même les mains ont disparu dans les plis de la robe de chambre. C'est un colosse de la littérature. De dos, le Balzac ressemble à un sarcophage. Même si Rodin s'attend à boire le fiel de ses détracteurs, il est loin d'imaginer le tapage que son Balzac va causer. Auguste Rodin naît le 12 novembre 1840 aux 3 rues de l'Arbalète dans le 5e arrondissement de Paris. Son père, qui travaille à la préfecture de police, fait vivre sa famille composée de sa femme, de sa fille Maria et de son petit Auguste. Maria est très proche de son frère. Elle lui donne le réconfort auquel aspire ce garçon timide, taiseux et si myope qu'il passe pour un mauvais élève car il ne voit presque rien sur le tableau noir de sa classe. Une chose cependant égaye sa solitude, le dessin. Rodin fait ses premiers croquis dans une épicerie non loin de chez lui. La concentration, le mouvement nerveux, le bruit du crayon sur la feuille forment tout son univers. Très jeune, il sait qu'il veut être artiste. À 14 ans, il intègre la petite école. C'est ainsi qu'on appelle l'École nationale des arts décoratifs, par opposition à la grande école, celle des beaux-arts. La petite école a le mérite d'être gratuite, mais elle ne forme que des artisans, des auxiliaires de grands sculpteurs, des petits décorateurs. De quoi gagner sa vie sans se faire un nom. Cette année-là, Auguste travaille la glaise, cette terre humide qui sert à modeler les ébauches des statues. Cette découverte est un véritable éblouissement, une sensation qui touche au divin. Il veut être sculpteur, comme Michel-Ange, et il fera tout pour y parvenir. Pour réaliser son rêve, Rodin doit intégrer les Beaux-Arts, la meilleure formation de France, la voie sacrée pour devenir un artiste reconnu. Mais il rate 3 fois le concours d'entrée. 3 fois ! Alors que son meilleur ami de la petite école, Léon Fourquet, est admis du premier coup. Rodin voit les portes du temple de l'académisme se fermer sur lui. Alors qu'il rumine sa frustration, un nouveau drame le bouleverse. Sa sœur, Maria Rodin, meurt suite à une maladie. La perte de cette sœur tant aimée est une tragédie pour le jeune Rodin alors âgé de 22 ans. Il en est même dégoûté de l'art et cherche à noyer sa peine dans la foi. En pleine crise mystique, il intègre la congrégation religieuse du Très-Saint-Sacrement comme novice pour devenir prêtre. Le fondateur de la congrégation, le père Aymar, observe longuement sa nouvelle recrue. Il constate qu'il lui est difficile de ne pas modeler et lui propose de faire son buste. Rodin s'y emploie avec passion. Même s'il est encore pétri d'académisme, la forme d'art la plus classique, il ne peut s'empêcher de donner une vie particulière à son modèle en façonnant avec vivacité les arêtes de son visage et en donnant du mouvement à la chevelure, comme si le vent s'y engouffrait. Le buste du père Aymar est saisissant de vie, mais n'obtient pas le résultat escompté. Le père Aymar trouve que son portrait a quelque chose de diabolique, sans doute parce qu'il a l'air trop vivant. Le religieux pousse donc son novice à reprendre le chemin des ateliers. Il y servira bien mieux Dieu qu'en restant dans les ordres. Rodin commence sa vie d'ouvrier décorateur. Il se fait embaucher à la manufacture de porcelaine de Sèvres, puis dans les ateliers de sculpteurs de Carrier-Belleuse et de Van Rasbourg. La plupart du temps, il intervient pour sculpter des décors sur des chantiers immobiliers. Il participe au bas-relief de la façade du Théâtre des Gobelins, sculpte d'Alembert pour une niche de l'Hôtel de Ville de Paris, ou donne forme à une allégorie de la science sur la façade du Palais des Académies de Bruxelles. Mais jamais son nom n'apparaît sur ses œuvres. Il est la petite main des autres et non le génie créateur. Enfin le jour, parce que la nuit, dans son atelier, il fait du rodin. Chaque soir, il s'use les doigts et la santé dans la terre. Cette terre glaise qu'il faut maintenir toujours humide avec des draps mouillés, cette matière qui lui glace les mains en hiver et donne une couleur bistrée à sa peau. Il y a aussi le marbre que l'on sculpte en enlevant de la matière pour obtenir la forme désirée. Le frottement du ciseau forme un nuage de poussière marmoréenne que Rodin respire. Ces fragments volatiles lui assèchent la gorge, mais ce qui compte alors, ce n'est pas la souffrance physique, mais la nécessité de donner vie à la matière. Pour l'y aider, l'artiste a besoin de modèles. Il fait venir dans son atelier une jeune couturière de 20 ans, Rose Beuret. Elle est jolie, discrète, inculte. Elle ne sait même pas lire, mais elle a pour Rodin une dévotion qui le touche, alors ils deviennent amants. Bien qu'il refuse de se marier et de reconnaître leur enfant, et qu'il lui promette des années de pauvreté et de travail acharné, Rose s'attache à lui. Elle se montre à la fois aimante et maternelle, point d'ancrage pour un génie qui ne veut pas s'occuper des contingences du quotidien. Rodin se serait inspiré de Rose pour modeler la jeune fille au chapeau fleuri. Cette terre cuite est d'une modernité époustouflante. Les mèches de cheveux qui caracolent sur les épaules, le chapeau incliné vers l'avant, les yeux aux pupilles creusées pour lui donner plus de profondeur et les lèvres entrouvertes dévoilant deux petites incisives donnent l'impression qu'elle est animée par le souffle de la vie. Rodin est déjà en rupture avec la perfection de l'académisme, mais il est trop à l'avant-garde. Il doit faire ses preuves. En 1865, à 25 ans, il propose au Salon, la grande exposition annuelle des artistes en vogue dans le Salon Carré du Louvre, l'homme au nez cassé. Le portrait on ne peut plus classique d'un homme, non pas un héros, ni un bourgeois, ni même un roi, mais un clochard au nez de travers à qui il taille un buste à la façon des empereurs romains. Malgré son apparent classicisme, l'œuvre est refusée au Salon. Dix ans plus tard, en 1875, Rodin, qui croit toujours en son talent, s'offre enfin un voyage en Italie pour aller nourrir son art et observer les techniques de ses prédécesseurs. Son grand tour est un choc esthétique. Il découvre mieux encore que dans les salles du musée du Louvre la pureté de la statuaire antique et la puissance des œuvres de Michel-Ange composées d'hommes au corps musculeux ou torturés. Face au maître italien, il a des moments de transe pendant lesquels il se sent pénétré par son génie. De retour à Paris, il sculpte l'âge d'Airain, un homme nu, debout, où l'on retrouve les inspirations des Apollons antiques et des nus des maîtres italiens. Mais Rodin ne tend pas à la même perfection que ses aînés. Il ne cherche pas à donner à son œuvre une finition parfaitement lisse. Il laisse davantage de texture sur la peau, dessine les muscles tels qu'il les voit sans en améliorer l'apparence. L'âge des reins est la copie conforme du modèle qui a pris la pose, un simple ouvrier nommé Auguste Ney. L'œuvre est exposée à Bruxelles et à Paris. Enfin, Rodin, à 37 ans, est reconnu pour son talent. Mais les fils dont se tissent les scandales se tressent plus vite que les couronnes de laurier. On accuse Rodin d'avoir moulé son modèle à vif. L'âge des reins est tellement réaliste qu'il ne peut pas avoir été sculpté. Rodin est mortifié. Il commence tout juste à se faire un nom et son talent est déjà remis en question. L'année suivante, il sculpte un Saint-Jean-Baptiste plus grand que nature pour prouver qu'il ne fait pas de moulage sur la chair de ses modèles. Les amateurs d'art commencent à s'intéresser à lui. Son génie est indéniable. En 1880, l'État lui achète l'âge des reins. Rodin entre alors au panthéon des artistes en vogue. Le maître installe son nouvel atelier au 182 rue de l'Université, dans le 7e arrondissement de Paris. C'est là qu'il commence à travailler sur une nouvelle commande de l'État, la Porte de l'Enfer, inspirée de la Divine Comédie du poète italien Dante Alighieri. Un monument qui devrait servir d'entrée au nouveau musée des arts décoratifs. Dans cette porte monumentale, haute de 6,35 m et large de 4 m, Rodin met en scène la quintessence de son art. Des dizaines de figures prisonnières des cercles de l'enfer sortent de la porte, en saillie, comme des statues complètes et non des reliefs. Les figures d'environ 50 cm chacune prouvent encore par leur taille qu'elles ne peuvent pas avoir été moulées sur un humain. On peut y voir Adam et Ève, honteux de constater leur nudité, Ugolin, le tyran de Pise, dévorant ses propres fils, un couple éperdu, Paolo et sa belle-sœur Francesca se donnant un baiser. Sur le linteau de la porte, un homme assis, la tête appuyée sur son poing, le coude sur le genou, regarde ses pauvres âmes se tordre. Il s'agit de Dante, pensif, contemplant son œuvre. C'est le penseur que Rodin va reproduire de manière monumentale quelques années plus tard et qui écrase le spectateur de toute sa hauteur. Mais le sculpteur est éternellement insatisfait de sa porte qu'il ne cesse de modifier. Au final, elle ne sera jamais livrée. Même s'il n'honore pas toujours ses commandes, Rodin est devenu un maître. Maintenant qu'il signe ses œuvres, il embauche, comme ses maîtres avant lui, des petites mains pour travailler dans son atelier. Il conçoit les modèles dans la terre et ses assistants les transposent en plâtre, en bronze ou en marbre. Parmi les nouvelles recrues se trouve une jeune fille brune au regard intense. Elle s'appelle Camille Claudel. Elle est la sœur de l'homme de lettres Paul Claudel. Rodin est subjugué par cet artiste au talent hors du commun. Pendant 10 ans, ils vivent ensemble une liaison passionnelle et s'alimentent dans leur création. Dans les années 1880-1890, Rodin sculpte ses œuvres les plus sensuelles. Ses couples, comme l'éternel printemps, s'enlacent dans des positions complexes. Ils semblent au bord de l'extase. Mais ces scandales font aussi de lui un artiste recherché pour sa modernité. C'est pour ces raisons que la ville de Calais lui passe une commande. Une sculpture qui représenterait un épisode de la guerre de Cent Ans où des bourgeois de Calais se sont rendus aux Anglais qui les assiégeaient pour sauver leur ville. Rodin peut désormais faire ses preuves dans la sculpture d'histoire comme les plus grands maîtres. Il dessine un premier projet où, conformément à la commande, ces personnages héroïques marchent vers leurs oppresseurs, la tête haute, avec un certain panache, bien qu'ils avancent vers la mort. Le projet plaît immédiatement à la mairie de Calais. Rodin s'étonne. Ne pas faire scandale ? Voilà qui est inhabituel pour lui. Il se rend compte que faire une œuvre consensuelle ne l'intéresse pas. Alors, il retravaille son projet. Ces bourgeois de Calais vont faire sensation. Cette fois, il en est certain. Pour découvrir la suite de ce récit en deux épisodes consacrés à Rodin, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.